carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour et bienvenue dans cette émission qui parle de Monet, puisqu'une exposition au Grand Palais va ouvrir ses portes à partir du 22 septembre et jusqu'au 24 janvier 2011. Pour en parler, je reçois Sylvie Patin, conservateur général au Musée d'Orsay et correspondant de l'Académie des Beaux-Arts. Je signale que vous êtes également l'auteur de Monet, un œil, mais bon Dieu, quel œil, aux éditions Découverte Gallimard. Est-ce que vous pourriez nous présenter les axes que vous avez choisis pour présenter les œuvres de Monet et nous donner un premier angle d'approche ?
Bien sûr, nous sommes plusieurs commissaires, nous sommes 5 commissaires, Guy Cocheval qui est le président du musée d'Orsay qui a eu l'idée de cette exposition, 3 conservateurs du musée d'Orsay, donc aussi Anne Rockbert, conservateur en chef au musée d'Orsay, Sylvie Patry, conservateur au musée d'Orsay et Richard Thompson, professeur à Édimbourg. L'idée de l'exposition, c'est de montrer l'ensemble du parcours de Monet, depuis les premières œuvres, depuis ses œuvres de jeunesse en Normandie, jusqu'à l'ultime message des Nymphéas. Bien sûr, le parcours se veut à la fois chronologique et avec des arrêts thématiques. Chronologique dans la première partie jusqu'en 1890, pour montrer justement les premières œuvres en Normandie, ensuite les vues de Paris, également les Argenteuil et ses environs, la période de l'apogée de l'impressionnisme, ensuite la période de Véteuil, qui a été beaucoup plus brève dans les années 80, alors que Monet a 40 ans, avec la série des débâcles, puis les voyages, ce que nous pourrions appeler plutôt les campagnes de peinture en France, dans la Creuse, à Belle-Île, également en Italie avec une petite incidence à Bordighera en 1884, Antibes, donc les vues de la Méditerranée. 2 arrêts thématiques sur les figures qui est une section qui tourne autour du personnage de Camille, Camille le premier modèle et la première épouse de Monet. Et puis un petit arrêt également pour les natures mortes, un thème qui a été traité également par Monet, Monet paysagiste mais également peintre de natures mortes. Et enfin, à partir de 1890, le peintre des séries avec les meules, les peupliers, les cathédrales, les vues de la Tamise, les vues des bassins aux Nymphéas, un arrêt en 1908 à Venise, avec cette ville flottante qu'il a découverte à l'âge de 68 ans. Et enfin, l'arrêt sur les Nymphéas, le thème de la décoration, qui incite à partir vers l'orangerie pour aller redécouvrir une fois encore les Nymphéas donnés à la France par l'artiste.
Une incroyable exposition. Est-ce qu'elle est nouvelle dans le sens où on a présenté déjà de nombreux tableaux ? On connaît Monet d'une certaine manière dans l'imaginaire collectif, il est très connu. Vous voulez vraiment apporter un nouveau regard ?
Oui, un nouveau regard dans la mesure où la dernière exposition monographique sur Monet au Grand Palais remonte à 1980, donc il y a 30 ans, j'en étais d'ailleurs également l'un des commissaires, et nous avons profité maintenant, nous bénéficions de tous les travaux qui ont été faits sur Monet, écrits, présentés avec des expositions depuis cette date, donc pendant la trentaine d'années. La France a été très présente avec des expositions comme Monet en Norvège, au musée Rodin, Monet Rodin en 1989, l'anniversaire de l'exposition de 1889, également l'exposition de 16 des cathédrales de Rouen en 1994 alors que François Bergot était le directeur du musée des Beaux-Arts de Rouen et puis Turner Whistler Monet il y a quelques années en 2005 dont j'étais aussi commissaire. Et les angles d'approche sont nouveaux par les rapprochements que nous allons effectuer avec certaines peintures. Donc l'ensemble des peintures, c'est 175 peintures exposées au Grand Palais, ce qui est un nombre impressionnant. Un nombre impressionnant qui a été pas du tout difficile à obtenir dans la mesure où l'exposition n'aura lieu qu'à Paris. Et elle est internationale dans son commissariat, mais non dans sa présentation. Et les rapprochements seront faits à plusieurs reprises pour montrer un petit peu un regard nouveau sur Monet dans certaines des sections. Rapproche évidemment, par exemple, dans les séries, le Parlement du 1871 avec les séries pour montrer justement ce nouveau regard de Monet peintre des séries sur un motif qu'il a traité autrefois. Vous aurez donc cette section avec les répétitions et également l'emprise des souvenirs, de la nostalgie, du rêve, c'est-à-dire de voir Monet évoluer depuis ses œuvres de jeunesse où on s'aperçoit dès la première salle que Monet très jeune a été effectivement un peintre très brillant. Il n'a pas eu à apprendre, si l'on peut dire. Il a tout de suite su manier le pinceau et les premières œuvres sont des chefs-d'œuvre. Également la section des figures qui montre un rapprochement avec des œuvres que nous ne voyons rarement et notamment il y aura un arrêt devant le déjeuner sur l'herbe, cette grande machine que Monet avait voulu exposer au salon et puis il avait changé d'avis du fait des critiques, mais cette grande machine c'était une toile de plus de 4 mètres sur 6 mètres qu'il a découpée parce qu'elle était endommagée à Argenteuil et 2 fragments sont conservés au musée d'Orsay mais ils seront à rapprocher également de l'esquisse du tableau qui est conservé au musée Pouchkine de Moscou qui voyage fort rarement, qui n'avait pas été vu en France je crois depuis le centenaire de l'impressionnisme en 1974 et qui sera donc possible de voir en même temps que le déjeuner sur l'herbe d'Orsay transporté au Grand Palais.
D'incroyables tableaux, on a très envie de vous demander vous-même, quel est celui que vous préférez ? Y en a-t-il un qui vous plaît plus que les autres ?
Je pourrais vous répondre au pluriel, parce qu'avec Monet, 2000 tableaux, une production très abondante, et bien sûr, j'aurais tendance à en aimer plusieurs, beaucoup. Mais s'il faut choisir, je crois qu'il y a une raison. Je vais remonter à un tableau que j'ai beaucoup aimé jeune et qui sera présent à l'exposition. J'aurais pu nommer aussi un tableau qui en sera absent, mais c'est très bien. C'est l'impression Soleil Levant du musée Marmottan, qui est le tableau éponyme du mouvement impressionniste. Et il reste donc au musée Marmottan, qui abrite à partir du 6 octobre une très belle exposition montrant l'importance de Monet en son musée. Donc, il ne manquera pas au Grand Palais. Et c'est justement, si nous devons, le visiteur doit aller voir l'orangerie, il doit aussi aller voir le musée Marmottan. Et il n'aurait pas été concevable que le musée Marmottan abandonne des œuvres et en même temps souhaite accueillir les visiteurs avec des cimaises vides. Le tableau que je préfère, que j'ai préféré très jeune, c'est La Terrasse à Sainte-Adresse, un magnifique chef-d'œuvre qui est conservé au Metropolitan Museum et je vais vous en dire les raisons. Avant de rentrer dans les détails de la peinture qui font que je le préfère, je vais vous situer un petit peu pourquoi je l'ai choisi. Tout d'abord, il est présent à l'exposition, il voyage très rarement, c'est un très beau tableau d'à peu près 1 mètre sur 1,20 m. Cette terrasse à Sainte-Adresse, elle a été acquise en fait par le Metropolitan en 1967. C'est un tableau exécuté en 1867, donc quand Monet, qui est né en 1840, avait 27 ans. Donc c'est un chef-d'œuvre de jeunesse que nous verrons dès la première salle. Il l'a exécuté dès l'âge de 27 ans, 1867, et en 1967, il a été acquis par le Metropolitan Museum à New York. Et ce qui est très, si on peut dire, sympathique, c'est qu'il a été acquis avec des donations, des fonds du musée, des contributions des amis du musée. Là, c'est un très bel hommage justement à l'importance des sociétés d'amis des musées. Il est parti outre-Atlantique, ce qui pourrait amener un regret, mais il est très bien aussi que les États-Unis conservent certains témoignages de l'art. Nous sommes ravis français de retrouver à l'étranger des sortes d'ambassadeurs de la culture française. Le Metropolitan est un magnifique musée qui conserve d'ailleurs de très belles toiles de la période de Vétheuil et il est donc très bien à sa place, acquis donc en 1967. Or, en 1967, j'avais suivi, j'étais à la fin de mes études au collège, j'avais suivi justement cette acquisition qui avait fait grand bruit puisque le tableau partait outre-Atlantique, rejoindre, si on peut dire, au Metropolitan les tableaux qui provenaient de la donation Eve Meyer, la collection Eve Meyer, Louisine Eve Meyer ayant été un des premiers amateurs de l'impressionnisme outre-Atlantique, puisque l'impressionnisme est parti très tôt grâce à Marie Cassatt et aux efforts de Durand-Ruel qui organisait des expositions dès 1886. Donc, je l'avais suivi et lorsque j'ai visité New York en 1971, je me suis rendue pour la première fois au Metropolitan et le premier tableau que je voulais voir, c'était évidemment celui-là. J'avais traversé les salles, j'avais rendez-vous vraiment avec un seul tableau. Et ce tableau, il se trouve que, puisque la maison Gallimard réédite mon Découverte Gallimard qui date de 1991, il a précisément choisi de le mettre en couverture. Je lui avais d'ailleurs donné une très belle place à l'intérieur du Découverte avec une double page pour montrer justement l'importance de cette scène estivale. En juin 1867, Monet est au Havre, à Sainte-Adresse, dans la famille, puisque en fait Monet est né à Paris en 1840, mais en 1845, sa famille est partie au Havre. C'est la raison pour laquelle souvent l'origine normande de l'impressionnisme est d'ailleurs bien souvent soulignée, en même temps que l'école de Barbizon, près de la forêt de Fontainebleau. Et c'est là que Monet a exécuté cette terrasse à Sainte-Adresse à une époque où il a écrit une très belle lettre. Je vous la lis. Elle a été adressée depuis Sainte-Adresse le 25 juin 1867. Il écrit à son ami Basile « Je suis au sein de la famille, aussi heureux, aussi bien que possible. Je me suis taillé beaucoup de besogne. J'ai une vingtaine de toiles en train, des marines étourdissantes, des figures et des jardins, et de tout enfin. » C'est là où on voit qu'en 1867, il s'était en quelque sorte fixé un programme pour l'été. C'est un été très curieux pour lui, car il a abandonné à Paris Camille, la jeune modèle du Déjeuner sur l'herbe. Il l'a abandonnée enceinte, enfin abandonnée, si l'on peut dire, il l'avait installée et il était en lien avec elle. Elle deviendra d'ailleurs sa première épouse 3 ans plus tard, en 1870. Il est donc dans sa famille qui, son père n'admettant pas trop sa liaison et n'admettant pas non plus trop sa vocation de peintre. Or, on s'aperçoit que dans ce tableau, c'est une sorte de démonstration spectaculaire du talent de Monet, parce que les marines, les figures et les jardins, bien finalement, les trois thèmes sont présents. Vous avez donc cette terrasse ouverte sur le large avec une partie de sa famille. Nous allons un petit peu détaillé après les personnages, et dans un cadre avec les fleurs et la mer à l'arrière-plan. Alors, je peux bien sûr vous détailler tous les personnages. Le père de Monet est à droite, assis dans un fauteuil, et vous avez au contraire à gauche une personne qui a été pu être identifiée, mais ça n'est pas du tout certain, comme la tante de Monet, c'est-à-dire cette tante, la sœur de son père, la demi-sœur de son père, qui a encouragé la vocation de son neveu, puisque Monet a perdu très tôt sa mère en 1857, quand il avait 17 ans. Il se retrouve donc là, au sein de sa famille, comme il le dit dans cette lettre, et vous avez se détachant sur la mer un jeune couple, une femme avec la femme à l'ombrelle, que nous retrouvons très souvent au cours de la carrière de Monet sur ses toiles. Et cette figure se détache donc sur la mer avec les voiliers au premier plan et à l'arrière-plan, les remorqueurs, les bateaux à vapeur. Vous avez donc... Puis ces drapeaux qui flottent au vent, que nous retrouverons aussi souvent dans la production de Monet, dans l'hôtel, à l'hôtel des Roches Noires, la rue Montorgueil pavoisée à Paris. Et puis de chaque côté, le peintre des jardins avec les fleurs, les glaïeuls, les capucines, certaines se détachant d'ailleurs sur la mer, et qui montrent tout le bonheur que Monet éprouvait à manier le pinceau, à traduire aussi comme une sorte de scène, comme un portant de théâtre. On a l'impression d'un rideau de scène avec toute cette scène de famille, ce moment suspendu, cet instant qui était si cher au cœur des impressionnistes, puisque l'impressionniste, c'est cet instant de bonheur un petit peu suspendu. Et puis cette technique, avec aussi ce jeu d'ombre et des lumières, avec les reflets sur le sol, et cette vision panoramique embrassée par le regard de Monet.
Il aimait beaucoup les ombrelles.
Beaucoup. C'était un accessoire qui se retrouve dans le, il en aura fait d'ailleurs un thème en 1886 avec sa belle-fille Suzanne Ojdé, la femme à l'ombrelle. Et puis également dans le jardin, un jardin très proche de la terrasse à Sainte-Adresse, la terrasse étant celle d'une villa qui domine donc le large. Et également la propriété qui est très proche, c'est le coteau, qui était justement la maison des Lecadre, de ses cousins Lecadre. Dans ce coteau, il représente une jeune cousine, Jeanne-Marguerite Lecadre, avec l'ombrelle, un tableau qui est aujourd'hui au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg et qui viendra également à l'exposition du Grand Palais.
Quand on regarde le tableau, on se demande qu'est-ce qui l'inspire le plus finalement ? Est-ce que c'est le végétal, les fleurs ? Est-ce que c'est le soyeux des robes, des ombrelles ? Est-ce que c'est la mer ? Est-ce que c'est les éléments naturels ?
Alors, je crois que tout l'inspire. Justement, le prodige de Monet, c'est que sous son pinceau, il note, il capte la nature. Il y a également d'ailleurs une très belle lettre en 1864 qui peut être rapprochée aussi de ce tableau. En 1864, donc il écrit « Je découvre tous les jours des choses toujours plus belles. C'est à en devenir fou, tellement j'ai envie de tout faire, de tout écrire. Je veux tout lutter, gratter, recommencer. Il me semble, quand je vois la nature, que je vais tout faire, tout écrire. Je me propose des choses épatantes. C'est effrayant ce que je vois dans ma tête. » Et vous voyez qu'il avait 24 ans quand il écrit ceci. Et je trouve que justement, il y a une très belle harmonie entre ce qu'il a exprimé par le pinceau et ce qu'il a écrit de sa main dans sa correspondance, qui a été publiée par Daniel Wildenstein, le grand historien de Monet, celui qui a été le premier à s'intéresser d'une manière, qui était membre de l'Institut, ici à l'Académie des Beaux-Arts, et qui s'est intéressé le premier très jeune étudiant à Monet, qui est l'auteur du catalogue raisonné, qui est paru de 1974 à 1991. Et là, il y a un parfait accord entre ce que Monet ressentait dans sa tête, et vous avez noté les épithètes dans ses lettres, c'est-à-dire « c'est effrayant dans ma tête, je veux tout écrire, tout faire ». Il note également aussi l'adjectif « épatant ». Donc, ce que nous pourrions qualifier d'épatant en voyant son tableau, lui-même l'a écrit. Et puis, des marines étourdissantes. Donc, on voit bien ce qu'il y avait dans la tête de Monet créateur et également ce que sa main était capable d'exécuter très jeune avec, comme vous l'avez noté, les éléments végétaux. Également, ce que nous aimons beaucoup, c'est-à-dire un petit peu ce retour en arrière avec ses fauteuils en rotin, avec cette époque. Car là, nous sentons vraiment ces années 1860, nous sentons la villégiature, l'importance de la Normandie qui va les premières années où Monet travaillait avec Boudin et Jonking sur la plage de Trouville. Et puis, de ce point de vue, si on connaît un petit peu l'œuvre de Monet, on voit aussi qu'en se tournant vers la gauche, parce que je me suis rendue sur cette terrasse pour voir aujourd'hui, eh bien vous voyez le même point de vue. Et à gauche, vous voyez le point de vue qu'il a montré dans cette vingtaine de toiles dont il parle, c'est-à-dire toutes ces marines avec la vue et la plage de Sainte-Adresse.
Pour revenir à l'exposition, on a l'impression que Monet suscite un engouement toujours plus croissant. Est-ce que c'est ce que vous notez, vous qui êtes au quotidien avec lui et le public, ou est-ce que vous trouvez ça plutôt normal au fond ?
Alors, normal, disons que... Pour moi,
au
c'est
vu
normal.
Du talent
oui, pour
et
moi,
de,
c'est normal.
De votre
je dirais
plaisir
que
personnel.
De nombreuses personnes sont intéressées très tôt à Monet, notamment ici le professeur Yves Pouliquen de l'Académie française, qui a beaucoup travaillé, qui connaît très très bien le peintre, qui a beaucoup regardé les œuvres et qui a d'ailleurs écrit une préface dans une exposition du Musée Marmottan et également une préface dans un petit ouvrage que j'avais écrit sur les regards sur les nymphéas de Paul Claudel et André Masson. J'ai noté Daniel Wildenstein. L'engouement, il a été très tôt ressenti aussi par un homme comme Zola, qui très tôt a dit que Monet devait se détacher du groupe des impressionnistes, était un chef de file. Et très tôt également, il a été reconnu par son ami Basile, le peintre qui devait mourir prématurément en 1870 sur le champ de bataille à Beaune-la-Rolande. Et Basile écrit à sa mère dès 1867, vous voyez la même année que ce tableau de Sainte-Adresse. Basile écrit à sa mère en disant « Nous allons exposer en marge du salon, nous serons un groupe et vous verrez, nous réussirons, car nous sommes avec Monet qui est plus fort que nous tous. » et que tous en parlant des peintres. Donc il a été très tôt, vous voyez, remarqué. Bien sûr, des événements ont amené le public à s'intéresser encore davantage à Monet. Et l'un d'entre eux, c'est l'ouverture de Giverny en 1980, la Fondation Claude Monet, qui est aujourd'hui sous la direction du GAL, membre de l'Institut également à l'Académie des Beaux-Arts, et qui avait été rouvert en 1980 avec d'abord des efforts qui avaient été faits par Jacques Carlu, architecte, aussi membre de l'Institut, qui avait travaillé pour la réouverture du Giverny, mais qui s'est éteint en 1977. Et c'est Gérald van der Kemp, avec son épouse Florence, qui avait pris le relais, et avec également des groupes de la Versailles Foundation. Donc, vous voyez, il y a eu très tôt un noyau et puis des amateurs, des connaisseurs. Alors, le grand public s'intéresse de plus en plus à Monet et je pense que là, Giverny pèse très, très lourd. Entre le musée Marmottan avec le tableau Impression Soleil Levant et Giverny, il y a des noyaux permanents. Une exposition, c'est 3 mois. Bien sûr, nous, c'est un test. Nous sommes quasi sûrs à la Réunion des musées nationaux, au musée d'Orsay, qui sont les 2 coproducteurs de l'exposition, sont sûrs que le public va répondre à l'invitation qui lui est faite de venir revoir Monet. Je pense aussi qu'il y a les découvertes, comme je le disais, dans les musées américains où Monet est très bien représenté de par le monde. En Russie, il est représenté en Suisse, il est représenté en Angleterre, il est représenté en Écosse. Les toiles vont venir un petit peu de partout. Et effectivement, l'impressionniste est de mieux en mieux connu. Il a été aussi beaucoup travaillé par des historiens d'art anglo-saxons, américains. Donc tout ceci maintenant fusionne et je pense que là, effectivement, c'est aussi le souhait de Guy Cocheval de présenter cette rétrospective pour faire le point. Je crois que pour moi, à la fois c'est normal, puisque moi je m'y intéressais dès les années 70, enfin une époque où Monet n'était pas trop publié, si on peut dire. C'était donc la même époque où Daniel Wildenstein travaillait pour le catalogue raisonné avec Rodolphe Walter.
Vous l'avez rencontré, Daniel Wildenstein ?
Ah oui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. J'aimais beaucoup d'ailleurs parler avec lui de Monet. Je trouvais son goût authentique, puisqu'il a fait partie des premiers. Il le connaissait très bien. Et je dois dire que dans son ouvrage, je n'ai quasiment pas passé une journée depuis les parutions des catalogues raisonnés sans les regarder et les lire très attentivement. Et je trouve que de nombreux renseignements figurent dans le Wildenstein. C'est très difficile, justement, de compléter. Vous voyez, nous faisons par touche, mais par exemple, cette terrasse à Saint-Dresse est très bien expliquée. Les localisations sont très bien faites. Les recherches avaient été très bien conduites par Rodolphe Walter. Donc voilà, moi, j'ai eu la chance, finalement, de commencer une carrière en 1974 avec le centenaire de l'impressionnisme en étant à l'Orangerie. Ensuite, de voir l'ouverture de Giverny, le musée d'Orsay, toutes les expositions du musée Marmottan. Et finalement, sur une 30aine d'années, bien sûr, l'aura de Monet n'a fait que se développer, que croître.
Merci beaucoup Sylvie Patin pour cette très intéressante présentation et puis pour ce tableau que vous venez de nous commenter qui est la couverture d'un livre qui s'intitule Monet, un œil, mais bon Dieu quel œil, tout de suite à acheter en librairie, très intéressant. Donc une exposition qui démarre au Grand Palais à partir du 22 septembre. Je rappelle que vous êtes ici correspondant de l'Académie des Beaux-Arts et que vous êtes conservateur général au musée d'Orsay. Merci beaucoup Sylvie Patin.
Merci beaucoup.